C'est mercredi, et comme chaque mercredi à 21h sur Radion, le moment est venu de prendre son billet et de monter à bord de Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire. Bonsoir à toutes et à tous, et merci de nous être fidèles à nouveau numéro donc de notre session culturelle. Comme convenu, nous vous proposons ce soir la deuxième partie du compte-rendu de la 16e fête du livre d'Autun, qui s'est tenue les 6 et 7 avril dernier à l'Hôtel de Ville. Ce soir, nous donnerons la parole à des figures plus médiatiques et plus connu nationalement, tandis que la semaine dernière, nous avions mis l'accent sur nos éditeurs et auteurs bourguignons. Alors ce soir, au programme, l'ex-international de football, et oui, Lilian Thuram, qui est venu le samedi après-midi 6 avril à Autun dédicacer « Mes étoiles noires », un ouvrage dans lequel il répertorie une quarantaine de personnalités noires qui l'ont notamment aidé à se construire. Nous aurons le plaisir de vous proposer un petit entretien avec Alma Brami, 26 ans, une jeune femme qui a été révélée lors de la rentrée littéraire de 2008. Elle nous revient cette année avec un tout nouveau roman chez Plon intitulé Lolo, mais on aura surtout l'occasion de parler avec elle de son avant-dernier roman disponible au Mercure de France et qui a pour titre « C'est pour ton bien ». Au programme de notre émission de ce mercredi 24 avril, un entretien avec Franck Bertrand. Il nous parlera de trois grandes stars hollywoodiennes, Greta Garbo, Marlène Dietrich et Marilyn Monroe. Quant à Joseph Farnell, un fidèle du Salon du Livre d'Autun, nous l'inviterons à développer l'intrigue de l'un de ses romans, qui a pour titre « Le butin du Vatican ». Et c'est un livre disponible aux éditions Pascal Gallaudet. Et puis vous en saurez un peu plus sur le dernier ouvrage du journaliste Jean-François Kahn, paru chez Fayard, ouvrage qui a pour titre « L'invention des Français du temps de nos folies gauloises ». C'est donc ce soir vraiment un beau programme pour Wagon Livre. Je rappelle que la fête du livre d'Autun se tient à l'hôtel de ville de l'ancienne capitale des Éduins. Elle est organisée chaque année par les bénévoles de l'association Lire en pays autunois. Chaque printemps donc une manifestation régionale avec un écho national. Nous passons d'ailleurs nos meilleures salutations à la présidente de l'association, Dominique Goujon, qui coordonne le travail des bénévoles de Lire en pays autunois. Ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, actuel président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, était à Autun avec sa compagne Valérie Bochnek. Tous deux ont rassemblé 26 portraits de femmes plus ou moins connues qui toutes se sont élevées contre les corporatismes, les privilèges, l'immobilisme. Paru chez Fayard, le livre a pour titre « Ces femmes qui ont réveillé la France ». Écoutons donc Jean-Louis Debré évoquer tout d'abord deux figures féminines nationales, Jeanne d'Arc et Marianne.
La France, à travers l'histoire, elle s'est incarnée dans deux femmes. Jeanne d'Arc, qui était le symbole de la France qui ne se laisse pas mener par l'étranger, de la France indépendante. Et puis, avec la fin de la royauté, une autre femme est arrivée, et c'était Marianne. Marianne, symbole de la République, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et donc, nous avons voulu, avec Valérie Bochnek, retracer l'histoire de ces femmes, souvent oubliées, toujours méconnues, qui, dans le combat pour la liberté et l'égalité, ont joué un rôle important. Alors ça va de Olympe de Gouges, qui a souhaité une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, à Simone Veil, en passant par un certain nombre de personnalités qui ont été oubliées de notre histoire et pourtant qui ont fait ce que nous sommes.
Alors il s'agissait donc de répertorier toutes les femmes qui ont fait évoluer les mentalités, qui ont bousculé les conservatismes et qui ont symbolisé la France du mouvement. Vous êtes certaine, Valérie Bochnek, de n'en avoir oublié aucune?
Nous avons fait des choix, parce que nous avons privilégié à la fois des femmes très connues, comme George Sand, comme Colette, comme Marguerite Yourcenar, et également des inconnus qui connaissent peu de gens. On connaît Élisa Lemonnier, première femme à avoir mis en avant l'enseignement secondaire pour les jeunes femmes, les jeunes filles.
Là, par exemple, cette première femme bachelière à 37 ans Julie en 1861, oui. Donc Julie Victoire d'Aubier.
Oui, exactement, qui a dû se battre et qui a été d'ailleurs aidée par un homme, Arlès Dufour. Oui. Elle avait écrit un ouvrage remarquable sur la condition des femmes pauvres au XIXe siècle. Donc c'était une femme qui a eu, qu'on pensait incapable finalement de passer ce bac. Parce qu'elle avait eu peu, apparemment, il y avait peu de possibilités d'être éduquée. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle avait un frère qui était prêtre et qui lui a enseigné le latin, le grec, l'histoire, la géographie.
Vous comprenez, toute l'histoire du 19e siècle, elle est basée sur deux piliers, le code civil et l'éducation. Le code civil, le code Napoléon, une société faite pour l'homme, uniquement pour l'homme, qui doit assurer la primauté de l'homme, et puis l'éducation, qui consiste à donner la possibilité d'une promotion par l'éducation qu'aux hommes. Les femmes sont écartées. Et quand Valérie vient de vous le dire, la petite Julie Victoire veut passer le bachot, on lui dit non, parce que les hommes se rendent compte qu'elle va sortir de sa condition de femme. Parce que le bachot, à l'époque, c'est donné par les universités et ça permet l'accès à l'université, l'accès au savoir. Or, pour maintenir les femmes sous la domination des hommes, c'est en ne leur permettant pas d'accéder au savoir. Et le combat de Julie Victoire d'Aubier, comme Valérie vient de vous le dire, est symptomatique. Et elle s'est battue. Finalement, à 37 ans, elle obtient le bac. Et le ministre de l'instruction de l'époque refuse
de lui donner le diplôme.
Oui, parce que au motif qu'il ne veut pas déshonorer son administration. Mais surtout au motif qu'il ne veut pas créer le précédent qui va permettre à des femmes de rentrer dans l'université. Et la branche est ouverte, la voie est ouverte, et Julie va être... C'est pour ça que c'est très injuste qu'elle soit oubliée aujourd'hui. Nous avons retrouvé sa trace. Mais si aujourd'hui il y a des femmes dans l'éducation, s'il y a des femmes ministres, peut-être un jour des femmes présidentes de la République, je ne sais pas.
Ou du Conseil constitutionnel.
Ou du Conseil constitutionnel. J'en rêve qu'il y ait une femme qui soit... nous avons trois femmes. Je souhaite qu'il y ait plus de femmes encore. Bref, si les femmes ont un rôle essentiel dans notre société, c'est parce qu'il y a eu cette Julie Victoire d'Aubier. Et on l'a oublié, alors on parle naturellement des personnages connus, et pourtant cette femme, cette petite Victoire, Julie Victoire, a ouvert la voie à toutes les femmes d'aujourd'hui.
Alors si l'université a du mal au milieu du 19e siècle, à reconnaître la validité d'un baccalauréat à une femme, par exemple, l'Académie française a mis du temps avant d'accueillir une femme. Alors, Valérie Bochnek, l'entrée à l'Académie française de Marguerite Yourcenar ne date que de janvier 1981. Première femme académicienne.
Et à 77 ans. Derrière des femmes au nom illustre, Colette, George Sand n'ont pas pu rentrer. George Sand a refusé d'ailleurs. Oui, mais là, l'Académie française des lettres. Et c'est un combat. Ça faisait plus de 350 ans que ce club d'hommes restait un club d'hommes et s'arc-boutait sur une sorte de tradition. Et ce qui est incroyable, c'est que Marguerite Yourcenar donc a réussi par son talent d'écrivain et à rentrer à l'Académie française, mais aussi pourquoi ? Parce qu'elle a cessé de faire de ce combat une revendication féminine. C'est-à-dire qu'elle a hissé la littérature au même niveau qu'une littérature masculine, la grande littérature. Et elle n'a pas. Elle dit, si un jour quelqu'un rentre à l'académie, ce sera parce que il n'en fera plus une histoire de revendication féminine, et nous ne parlons plus non plus, ce qui était souvent le cas de certaines écritures de femmes, de problèmes féminins. Et elle a dépassé ses clivages, et c'est ce qui fait qu'elle est enfin rentrée à l'Académie française. Donc, elle a ouvert la voie.
Elle est sortie un peu de l'esprit des salons et des femmes savantes dont se moquait Molière.
Oui, ou de, voilà.
Alors, autre femme brillante, scientifique, un petit mot quand même sur Marie Curie.
Marie Curie, si vous voulez, c'est un personnage tout à fait exceptionnel. Exceptionnel parce qu'elle n'est pas française, elle vient en France, elle se marie à Pierre Curie, et elle va en quelques années, très modestement, avec très peu de conditions matérielles dans un petit laboratoire, devenir l'une des plus grandes chercheuses du monde. Elle va être couronnée de 2 prix Nobel. Il n'y a pas une femme dans le monde depuis qui a eu 2 prix Nobel. Mais ce qui est exceptionnel avec Marie Curie, c'est que elle s'est imposée dans un univers d'hommes. Quels sont les gens qui tournent autour de Marie Curie? C'est Perrin, le grand scientifique, ce sont des hommes, et on n'a jamais vu une femme arriver. Et elle s'est imposée. Et elle s'est imposée par la qualité de son travail, par sa ténacité. Voilà une femme qu'on a oubliée. Il y en a bien d'autres, hein.
Il y a Louise Weiss aussi.
Il y a Louise Weiss, mais
la grand-mère de l'Europe.
La grand-mère de l'Europe. Mais permettez-moi, juste avant de dire une femme à laquelle je suis très, très amoureux, c'est Madeleine Bress. Madeleine Bress est une petite fille d'une famille très modeste, puisque le père est charpentier, et tous les jours, il va chez les Sœurs de la Charité à Nîmes pour réparer les fenêtres, etc. Et Madeleine, enfant, elle veut devenir médecin. C'est sa vocation. Elle sent qu'il n'y a qu'une chose qui l'appelle, c'est la médecine. Et quand elle veut postuler, on lui dit, mais non, attends, sérieux. La médecine, c'est uniquement une vocation d'homme. Pas question qu'on puisse, trop dangereux de laisser à une femme la possibilité de devenir médecin. Et elle s'est battue. Et quand c'est la guerre et que tous les hommes, les médecins partent à la guerre, on fait appel à cette infirmière et on se rend compte qu'elle est exceptionnelle, qu'elle a un diagnostic d'une sûreté, qu'elle a une conscience professionnelle exceptionnelle, elle devient la première femme médecin et elle va ouvrir la voie de la médecine à toutes ces femmes. Voilà quelqu'un d'exceptionnel. Alors oui, Louise Weiss est aussi quelqu'un d'exceptionnel, puisque elle a
agrégé de lettres à 20 ans.
Elle a surtout une réflexion très profonde sur l'évolution de la société et sur la nécessité de cette construction européenne. Elle va être d'ailleurs déçue par cette construction européenne, mais elle considère que pour éviter on en parle encore aujourd'hui, mais pour éviter que l'Europe retombe dans la guerre avec cet affrontement traditionnel entre les Allemands et les Français, il faut construire l'Europe. Et l'Europe se reposera sur le couple franco-allemand. Ces idées sont des idées d'aujourd'hui.
C'était Jean-Louis Debré et Valérie Boschneck, enregistrés lors de la 16e fête du livre d'Autun. Très précisément le dimanche 7 avril dernier. Je rappelle le titre de leur ouvrage, « Ces femmes qui ont réveillé la France ». Cet essai est disponible en librairie aux éditions Fayard. On va marquer une première petite pause musicale jazz et on se retrouvera juste après pour partager le coup de cœur de notre libraire partenaire, Evelyne Levallois, de la librairie L'Autre Monde à Avallon. En attendant, un morceau de Marie-Lou Williams. Bonne soirée sur Radion. Thank you. Ces femmes qui ont réveillé la France, c'est le titre du dernier ouvrage de Valérie Bochenek et de Jean-Louis Debré que vous venez d'entendre dans Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion. L'ouvrage, je le rappelle, est disponible aux éditions Fayard, un livre qui rappelle combien un grand nombre de femmes se sont élevées contre les corporatismes, les privilèges et les immobilismes pour imposer leurs idées. Eh bien, en voilà une autre de femme, c'est notre libraire bien-aimé, notre fidèle libraire partenaire. C'est avec plaisir que nous l'accueillons devant notre micro pour le coup de cœur de la semaine. Voici donc Evelyne Levallois de la librairie L'Autre Monde. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous.
Quel est le coup de cœur de la semaine?
Alors c'est une première mondiale sur Radion, je vais chroniquer un manga. Je crois que c'est la première fois qu'on en parle.
Oui, oui, oui.
Alors, je vais vous parler d'un auteur mythique, Naoki Urasawa, qui est très très connu au Japon, qui est aussi très connu en France. Ça s'appelle Master Kitten, aux éditions Kana, et l'auteur s'appelle Naoki Urasawa. C'est le premier volume d'une série de trois. Comme je le disais, c'est un auteur mythique en France et au Japon pour notamment trois séries qui sont Monster, 20th Century Boys et Pluto. C'est un auteur qui officie plutôt dans le genre du thriller psychologique avec des séries plus ou moins longues. Là, ce sera une série assez courte, 3. Donc Monster, sur fond de Seconde Guerre mondiale et Bloc de l'Est, on parlait des expériences médicales et psychologiques pratiquées sur les enfants orphelins, notamment les juifs, mais pas uniquement. 20th Century Boys, c'est une série plutôt SF autour d'une secte apocalyptique qui utilisait les enfants pour perpétrer des attentats. Toujours le souci des enfants chez Urasawa, est-ce qu'on en fait la planète qu'on va leur laisser. Plutôt, c'était une série vraiment SF autour des robots, qui était un hommage aussi à Astro de Tezuka. Donc, une très grosse pointure du manga. Si je vous parle manga, c'est vraiment pour vous parler d'une belle pointure. Master Kitten, le personnage principal est un professeur d'archéologie dans une université japonaise. On sent bien que c'est un bon prof, hein, mais c'est pas la star. Hein. Il gagne pas énormément d'argent, c'est ce que va lui dire sa fille à un moment. Donc, il est professeur dans une université japonaise, un personnage qui est assez anodin et qui, pour arrondir ses fins de mois, est aussi enquêteur pour des sociétés d'assurance. On comprend très vite que ce professeur Keaton est une vraie pointure là aussi dans le domaine de l'enquête. Il y a de nombreux clins d'œil à Sherlock Holmes, au détective Conan aussi, autre série manga un peu mythique, et aussi à Indiana Jones, parce qu'évidemment, l'archéologue qui enquête, on connaît. On découvre peu à peu le passé de ce professeur un peu lunaire, de mère anglaise et de père japonais, il est diplômé d'Oxford, et pour autant c'est un sombre professeur dans une université. C'est aussi un ancien des SAS, les services spéciaux anglais, spécialisé dans la survie, donc un personnage avec un passé assez chargé, pour cet homme qui a l'air de rien, voire un peu emprunté. Hein, donc on découvre peu à peu ce passé et on sent bien que ça va se corser. Donc on a une trame de fond comme ça, policière, autour de ce personnage Keaton et de son passé. Et sur le devant de l'histoire, on a toujours des petites énigmes policières, c'est les fameuses enquêtes pour les assurances. Donc on a deux niveaux d'enquête à l'intérieur. C'est vraiment très très bien fait, c'est très très holmesien comme ambiance, et ça c'est vraiment chouette. Donc c'est vraiment idéal pour découvrir et Urasawa et son œuvre, et le manga, un genre pour adultes aussi. On peut le conseiller aux grands ados, évidemment.
Tu nous rappelles le titre et le nom de l'auteur et l'éditeur de ce manga ?
Master Kitten de Naoki Urasawa aux éditions Kana. Je signale tout de même qu'il est publié en sens de lecture japonais, donc à l'envers pour nous.
Très bien. Alors, passons, comme chaque semaine, aux meilleures ventes de la librairie L'Autre Monde. Quel est le tiercé gagnant cette semaine ?
Alors, le tiercé gagnant, comme les auditeurs de Radion m'écoutent attentivement, ce sera Immortelle Randonnée de Jean-Christophe Ruffin, dont j'ai parlé la fois dernière. Ensuite, un vrai, vrai phénomène populaire, Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson chez Pocket. Et ensuite, le Philippe Labro, le flûtiste invisible chez Gallimard, qui a une excellente presse et de très bons retours de lecteurs.
Merci Evelyne pour le coup de cœur de la semaine.
Bonsoir.
Bonsoir Evelyne. On reprend notre compte-rendu de la 16e fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 6 et 7 avril dernier. Fête du livre d'Autun organisée par les bénévoles de Lire en pays autunois. Le thème cette année du salon était les chemins.
Il était avec Jean-Louis Debré et l'ancien footballeur Lilian Thuram, sans oublier Didier Cornat. Il était l'une des têtes d'affiche du Salon d'Autun. Je veux parler du journaliste Jean-François Kahn, le créateur de l'événement du jeudi et de l'hebdomadaire Marianne, revient à ses premières amours, à savoir l'histoire, avec son dernier ouvrage paru chez Fayard et qui a pour titre « L'invention des Français » avec comme sous-titre « Du temps de nos folies gauloises », une histoire de France incorrecte. Tout de suite, Jean-François Kahn à notre micro.
Il y a beaucoup d'histoires de la nation. Comment s'est créée la nation française? Comment s'est créée la France? Comment s'est créée la République, à la limite? Mais il y a très peu de livres sur comment, peu à peu, a émergé quelque chose qui va devenir les Français. C'est-à-dire de briques, de brocs, de tribus, de bandes, plus ou moins sauvages, tout ça, une agglomération, quelque chose va se modeler, hein, qui va devenir les Français. Et donc j'ai voulu entamer une grande histoire, c'est le premier tome, de la formation des Français. Et là, dans ce premier tome, ça va de, disons, des temps néolithiques au premier siècle des Gallo-Romains. Bon. Mais naturellement, ça recouvre en grande partie l'histoire des Gaulois. Donc je raconte. Mais surtout, je me suis aperçu d'une chose. C'est que si vous prenez de moins 600 avant Jésus-Christ, quand arrivent les Gaulois en France, en Gaule, à plus 500, l'arrivée de Clovis, par exemple, enfin, hein, 1000 ans, c'est énorme, 1000 ans. Eh bien, demandez aux gens, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 1000 ans? Au mieux, ils vont vous citer Vercingétorix, Alésia, ou et le baptême de Clovis. C'est tout. En 1000 ans, c'est un trou. C'est un énorme trou. Où tout se passe. C'est-à-dire que c'est en vérité, c'est tout, absolument tout se passe là. C'est une espèce de creuset. Et c'est là que se forme la France, que s'affirment les Français, que ce qu'on est quelque part prend racine. Et on ne sait rien. Et quand vous plongez là-dedans, vous apercevez, mais non seulement tout se passe, absolument tout se passe, mais c'est extraordinaire. Aucun romancier n'oserait rêver une histoire aussi furieuse, aussi tragique, aussi héroïque, aussi lamentable, aussi, il y a tout. Tous les romans d'aventure sont là-dedans, d'une certaine manière. Et donc, j'ai voulu reconstituer ce qui se passe dans ce creuset et qui va finir par devenir les Français et donc la France.
Mais alors, quelles sont vos sources, alors, Jean-François Kahn?
Les sources, c'est absolument toutes les sources existantes, c'est-à-dire les sources grecques, les sources romaines. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sources gauloises, parce que les Gaulois, les curés, leur avaient interdit l'écriture, les druides. Les druides leur avaient interdit l'écriture pour se garder le monopole de la transmission. C'est pratique, hein, comme système. Donc, ils n'écrivaient pas. Donc, il n'y a pas de sources gauloises. Mais, en revanche, il y a beaucoup de sources grecques, beaucoup de sources romaines. Il y a beaucoup de sources archéologiques. Et donc, j'ai utilisé absolument tout ce qui existe aujourd'hui.
L'invention des Français, du temps de nos folies gauloises. C'est donc le titre du dernier ouvrage de Jean-François Kahn, où il fait revivre des héros injustement oubliés. Avec le créateur de Marianne, l'histoire est un exercice vivant et sérieux, un récit qui se permet tout, qui décortique tout, mythe, idées reçues et trucages. Bref, nos idées revues et corrigées par JFK, une histoire incorrecte. On se retrouve dans une poignée de minutes après la pause musicale que voici. C'est Marc Lavoine avec « C'est ça la France ».
Ça boit le petit noir ou le petit vin blanc. Ça cherche la bagarre et du boulot souvent. Ça lève le poing, sa bouche, sa manifestation. Ça sort tous les samedis, dépensé sans pognon. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du la gueule à l'opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent en T. Ça fait de l'huile d'olive et du couscous poulet. Ça trinque à la pétanque au comptoir chez Marseille. Ça brasse, ça tout va, c'est beau les seins d'une fille. Ce camembert chinois, ça frise à la Bastille. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du la gueule à l'opinel, partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, les trois mots qui terminent en paix. Ça avale son Vichy et ça Dreyfus la joie. Jean Moulin Rouge aussi, Pierre Bérégovoy. Sa liberté de la presse, c'est pas qu'une impression. Le plus souvent, ça OS sur un eau chez Citron. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du lagal à l'opinel, de partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin, je pense, faut jamais les oublier, ces trois mots se terminent en T. Ça bouge sous les périphes, ça rôde encore la nuit. Ça fait des hiéroglyphes, ça fait des petits. C'est ça la France, du Chili dans les gamelles et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du la gueule à l'opinel, de partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin je pense, faut jamais les oublier, les trois mots se terminent en T. Et du vin dans les bidons. C'est ça la France, du la gueule à l'opinel, de partager les saucissons. C'est ça la France, on est tous des frères selon les déclarations. Enfin, je pense, faut jamais les oublier, ces trois mots sont terminés. Ouais, c'est ça la France.
Elle vient de faire paraître Lolo aux éditions Plomb. Découverte très jeune avec Sans elle, roman paru en 2008 et qui avait pour thème le deuil et l'enfance. Alma Brami était présente à la 16e fête du livre d'Autun. Je l'avais déjà rencontrée l'an dernier. Et nous allons d'ailleurs écouter la jeune romancière parler de son avant-dernier roman qui a pour titre C'est pour ton bien, paru au Mercure de France. Elle explique le point de départ de ce roman.
Je suis partie d'une communauté religieuse, je cite pas laquelle parce que peu importe, et j'ai décidé voilà de m'occuper de cette jeune fille qui tombe enceinte, et pour elle ça va être un grand bonheur et pour ses parents ça va être un énorme drame. Ils ont peur du déshonneur, ils ont peur des rumeurs, ils ont peur de qu'elle ait une vie pas jolie, ils espèrent mieux pour leur fille, et c'est donc pour ça qu'ils l'exilent à quelques kilomètres dans un appartement tout confort, mais il lui manque le principal, c'est-à-dire l'amour, l'attention dont elle a besoin, et surtout un modèle pour pouvoir éduquer sa petite fille.
Finalement, Alma Brami, vous avez souhaité vous pencher sur la notion du bonheur, c'est-à-dire est-ce qu'une fille, à l'heure actuelle, peut être heureuse avec son enfant et sans père ? Parce que se pose le problème du père. Elle en a un vague souvenir, elle sait que c'était un homme qui travaillait dans un cirque. Alors, il y a cette image du cirque aussi qui est une image à mes yeux exotique, l'image de quelqu'un qui est de passage tout le temps. Mm-hmm. Mais l'enfant qui est le fruit du passage de cet homme, cette petite fille qui va naître et qui se prénomme Charlotte, prénom gourmand comme vous le dites, cette petite Charlotte, elle aussi va connaître des problèmes et des interrogations. Problème avec son corps, c'est aussi une réflexion sur l'acceptation du corps, vous parlez même de la prison dermique à un moment. Mmh. Acceptation de son corps et aussi recherche quête du père. Cette petite Charlotte, elle a un problème à l'école. Quand on demande le nom de son père, elle ne sait pas quoi mettre.
Oui, alors ce qui était très important pour moi, c'est que je n'avais pas du tout envie de montrer un système éducatif meilleur que l'autre. Et l'héroïne, donc, qui s'appelle Lily, qui a 17 ans, a subi, et je dis bien le mot subir, une éducation qui ne lui a pas du tout convenu, très stricte, très rigide, où il fallait être en uniforme, où le corps n'avait pas vraiment de présence. Et elle décide de faire complètement le contraire pour sa petite fille, c'est-à-dire qu'elle décide de l'habiller en couleur, de lui faire à manger de tous les côtés. Bref, finalement, elle l'engraisse et on se rend compte que d'un côté ou de l'autre, l'éducation n'est pas bonne. Là, vous parlez du manque de père, mais c'est surtout qu'il manque toute une famille autour, il manque toute une structure. Finalement, l'héroïne ne manque pas vraiment d'un amour de couple. Il lui manque surtout une base, une structure avec ses parents, avec sa petite sœur, et pouvoir donner les racines à sa fille qui est à ses côtés et qui a besoin de grandir en sachant d'où elle vient, et pas seulement d'un père et d'une mère, des ancêtres.
Ce qui m'a beaucoup plu aussi, Alma, dans votre roman, c'est l'idée... Est-ce qu'il est possible de... Vous utilisez même le verbe réinclure et réintégrer une enfant que l'on a mis de côté, et qui a été dépossédée de l'affection de ses parents au détriment de l'argent. Et il y a cette... Les parents donc de Lily payent cet appartement pour finalement isoler cette honte, cet enfant du malheur. Et vous écrivez, les parents de Lily payaient pour la paix de toute la famille. C'est aussi une réflexion sur nos histoires de famille. Nous avons tous des petits tracas parfois dans nos relations avec nos parents ou nos frères ou nos sœurs.
Exactement. Et puis ce qui était très important pour moi, c'était l'image. Comment aller à l'encontre de ce que les parents ont souhaité pour leurs enfants, comment grandir d'une façon libre, en fait. Et c'est ce combat-là, en fait, parce que Charlotte va se battre pour regagner sa liberté auprès de sa jeune mère, et la jeune mère se bat pendant tout le livre pour gagner sa liberté auprès de sa fille, parce qu'elle n'arrive plus à vivre sans sa fille, et en même temps de regagner l'amour de ses parents. Donc c'est un combat vers la liberté pour les deux côtés.
Mais paradoxalement, Lily, la fille mère, donc, qui met au monde cette petite Charlotte, Lily qui a vécu et subi l'éducation plus qu'elle ne l'a acceptée, elle n'arrive pas à accepter que sa fille grandisse et que sa fille, elle aussi, va un jour vouloir goûter à l'indépendance. D'ailleurs, vous écrivez, Lily préférait clairement une Charlotte déçue à ses côtés qu'heureuse avec d'autres. C'est aussi une réflexion sur l'égoïsme des mères possessives qui veulent finalement ne pas voir grandir leur enfant, qui leur refuse une vie et une autonomie.
Oui, la difficulté en fait pour Lily, c'est qu'elle a la sensation d'être née en même temps qu'elle a donné naissance. Donc finalement, sa fille grandit, elle grandit en même temps qu'elle, et Lily en dehors de sa fille n'existe pas. Elle n'a pas de métier, elle n'a pas besoin de travailler puisqu'elle a une pension alimentaire qui tombe tous les mois. Et finalement, sa seule préoccupation, c'est sa fille. Donc quand sa fille prend un petit peu de liberté, grandit et a envie de faire sa première boum en sixième avec ses copines, Lily, elle n'a absolument plus rien à faire à part attendre sa fille, et c'est ça le drame.
Alors il y a aussi de très très belles images, il y en a une que j'ai notée, vous écrivez, Alma Brami, son âme perdait des mailles, je trouve ça très joli, l'idée de l'âme qui est un tricot, ça, je trouve ça vraiment magnifique. Et puis, vous parlez de choses, j'allais dire presque avec beaucoup d'audace, mais aussi avec beaucoup de délicatesse. Vous parlez des règles féminines. À un moment, Charlotte découvre qu'elle devient une femme. Et vous parlez des règles des jeunes filles. Je vous cite, Alma, comme le fardeau des femmes. Et on devrait en plus s'en réjouir. Bon, ça c'est ironique bien sûr. Mais finalement, dans certaines familles, quand une petite fille a ses règles, on célèbre le fait qu'elle ait enfin changé de statut et qu'elle devienne femme. Parce qu'il est beaucoup question de naissance et d'enfantement dans votre roman. Et je dirais que Alma enfante des romans comme ses héroïnes enfantent des bébés.
Oui, alors là on parle de la famille de Lily. C'est dans la famille de Lily que les règles sont absolument taboues, que tout ce qui concerne la sexualité est également tabou. Il y a même la question de mariage plus ou moins arrangé. ils ne parlent pas de règles parce que c'est rentré dans l'intimité de leurs enfants. Donc tout est non dit, tout est tabou en fait. C'est une famille comme ça où l'image doit être propre, lissée, l'amour ne doit pas être trop passionné, tout est constant, tout est médiocre en fait. Et donc c'est cette réflexion-là entre le corps qui prend en otage ou le corps qui peut donner du plaisir.
Vous avez, Alma Brahmi, à travers C'est pour ton bien, vous avez écrit un hymne à l'amour maternel. Et il y a quelque chose qui m'a énormément touché. C'est dans les dernières pages du roman, c'est Lily qui, effectivement, veut garder cet enfant comme presque, j'allais dire, rouage essentiel de son bonheur. Elle dit qu'elle voudrait éviter le chagrin à son enfant. C'est très beau. Or, on sait bien que les parents ne peuvent malheureusement pas toujours neutraliser les chagrins de leurs enfants, la vie étant parfois beaucoup trop cruelle.
Oui, et en plus, la vie est très cruelle, mais la difficulté aussi, c'est que les parents ont beau essayer de faire le mieux possible, essayer de faire l'éducation la meilleure, essayer d'aimer leurs enfants au maximum, on sait que l'enfant va manquer de tout et va être triste quand même, va en vouloir à ses parents à un moment. Et c'est ça aussi qui était intéressant, c'était de travailler sur trois générations et de se rendre compte qu'à chaque génération, on a des manques, on a de la souffrance et on essaye de faire l'inverse de ses parents et donc on reproduit le schéma des grands-parents et ainsi de suite. En fait, c'est sans fin.
Alma Brahmi, à notre micro pour C'est pour ton bien, roman paru aux éditions du Mercure de France. Le tout dernier roman d'Alma Brahmi, disponible chez Plon depuis janvier dernier, a pour titre Lolo. Lolo, le sujet de ce livre, est l'histoire d'une femme qui, un peu seule, souffre. C'est une jeune femme en quête d'identité, une starlette perdue dans la lumière, qui souhaite subir une énième augmentation mammaire. Alors son chirurgien inquiet lui demande alors d'aller chez le psy pour qu'il autorise ou non la périlleuse. Opération commence. À partir de là, un roman bouleversant et tragique, l'histoire de Lolo racontée à travers ses séances chez le psy. Mercredi prochain, toujours à 21h sur Radion, nous vous proposerons un entretien avec Marianne Fouché. Marianne Fouché est la fille du poète, écrivain, homme de télé, homme de radio, Max-Paul Fouché. Et ce sera l'occasion de revenir sur le parcours, l'œuvre et la vie de Max-Paul Fouché, dont on commémorera très exactement ce 1er mai prochain, le centenaire de la naissance. Une émission donc à ne pas manquer. Place à la chanson tout de suite avec Allô Maman Bobo et c'est Alain Souchon. Excellente soirée, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaires. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall. Je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Moi je voulais les sorties de port à la voile. La nuit parée les étoiles. Moi, les chevaux, le revolver et le chapeau clown. La belle Peggy du saloon. Je suis mal en homme dur et mal en petit cœur. peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne, je suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo.
Toujours à bord de Wagon Livre pour le compte-rendu de la 16e édition de la Fête du Livre d'Autun qui s'est tenue les 6 et 7 avril dernier. Il nous fallait bien un peu de rêve, de magie et de paillettes ce soir. En voici, avec l'ouvrage que signe Franck Bertrand chez France Empire, explorant les succès et les échecs de ces déesses du sex-appeal, en coulisses ou devant les caméras, l'auteur jette un éclairage nouveau sur trois grandes personnalités complexes et envoûtantes, éprises de perfection dans leur art et souvent confrontées dans la vie réelle à l'angoisse et à la solitude. Eh bien, nous allons écouter Franck Bertrand nous présenter son dernier ouvrage, Les trois reines d'Hollywood, Greta Garbo, Marlène Dietrich, Marilyn Monroe.
Je crois que ce sont les trois plus grandes stars qui aient jamais existé. Garbo, Dietrich, Marilyn. Marilyn étant un peu l'enfant, on pourrait dire, de Garbo et de Dietrich. Donc la divine, on pourrait dire l'impératrice et Marilyn, on l'appelait. Je crois que Truman Capote lui avait trouvé un très joli nom, une très jolie appellation. C'était l'enfant radieuse. Et voilà, c'est l'histoire, le parcours incroyable de ces trois femmes en tant que star, mais aussi en tant qu'être humain.
Alors il y a un mystère Garbo quand même, alors, étrange femme qui aspirait au silence à la fin de sa vie,
oui.
Et à une vie de recluse.
Oui et non, si vous voulez, c'est exact, mais ce qu'on ne sait pas très bien, c'est que Garbo, quand elle a quitté, elle n'a pas fait comme Brigitte Bardot qui a quitté le cinéma d'un coup. Garbo, en 42, elle a eu un dernier film qui s'appelait La femme aux deux visages, qui a été extrêmement critiqué, elle a été vilipendée, ça a été terrible. Donc elle n'a pas dit j'arrête, elle a dit je prends un peu de recul. Et il se trouve que pendant 10 ans, pour des raisons ou de production ou d'autres raisons, parce qu'elle refusait les films, aucun projet ne s'est monté. Et donc, elle a passé des essais couleurs en 1949 pour un film, La Duchesse de Langeais, qu'elle devait tourner, je crois, avec James Mason. Le film n'a pas pu se monter et c'est seulement en 50 qu'elle a dit j'arrête. Voilà. Et alors, elle n'a pas vraiment mené une vie de recluse. Ça, on a beaucoup dit ça. C'est vrai qu'elle vivait seule, elle vivait à New York, mais elle avait beaucoup d'amis, tous richissimes, ce qui est toujours pratique. Elle voyait Onassis, elle avait sa grande amie Cécile de Rothschild, elle voyageait beaucoup. Alors, je crois qu'on a un peu développé le mythe de la recluse. Elle était une femme solitaire, mais enfin, elle avait quand même beaucoup de... Elle a eu des aventures, elle a eu des amants, elle a eu des amis, et elle est morte en 1990.
Alors Marlène Dietrich, Jean Gabin, alors que s'est-il passé entre les deux?
Jean Gabin, donc c'était une aventure très importante dans la vie de Marlène, pour les deux d'ailleurs. Mais Marlène n'a jamais voulu quitter son mari. Marlène était mariée avec Rudolf Zieber, elle avait une fille avec lui. Et donc Gabin, en plus Marlène avait une vie très libre. Elle avait des aventures avec des femmes, avec des hommes, et elle voulait de toute façon continuer ce genre de vie, ce qui n'était pas tellement le genre de Gabin. Donc à un moment donné, il lui a un peu donné le choix, enfin il lui a posé une sorte d'ultimatum, et finalement, ils se sont séparés. Alors, et il n'a jamais voulu la revoir.
autre inoubliable icône
du
l'amour, Marilyn Monroe. Alors, je vous ai dit toute la passion que j'avais pour Marilyn Monroe. Le premier mari de Jim Dougherty. Joey DiMaggio, le joueur
DiMaggio
de baseball.
Et Arthur Miller.
Et puis, bien sûr, le dramaturge Arthur Miller. Ouais. Alors, la mort de Marilyn Monroe en 62. Alors suicide, crime déguisé. Qu'est-ce que pensez-vous, Franck Bertrand?
Moi, ma version, ma modeste version, enfin, j'ai beaucoup étudié sur elle, ma version, c'est que Marilyn s'est trompée dans ses dosages de médicaments et ça me semble impossible qu'elle ait été assassinée. Quant au suicide, je n'y crois absolument pas. Donc, elle avait pris des médicaments contraires. C'est un peu comme Martine Carole. Martine Carole s'est pas suicidée non plus. C'est des femmes qui prenaient beaucoup de médicaments. Donc, c'était des médicaments, elle a fait une sorte d'overdose, si vous voulez. Voilà. Mais c'est pas du tout un suicide. Et quand elle a passé ce fameux coup de fil à Peter Lawford, où on a dit elle appelle au secours, c'est parce que je pense qu'elle se sentait vraiment mourir. Et donc elle avait cette femme très étrange qui s'appelait Eunice Murray, qui était sa gouvernante d'ailleurs, qu'elle allait virer. Et elle avait un psychanalyste qui était, enfin si on peut appeler ça un psychanalyste, parce qu'il était quand même un homme très étrange, et qui lui avait dit faites-lui un lavement. Et on lui a fait une sorte de lavement, qui a fait une sorte de court-circuit avec les médicaments qu'elle avait pris. Et c'est comme ça qu'elle est morte, enfin. Il me semble que c'est la version qui est la plus crédible. Parce que Marilyn avait plein de projets. Je vois pas comment elle se serait suicidée à ce moment-là. Comment que les frères Kennedy l'aient tué, ça je crois pas du tout.
C'était Franck Bertrand à notre micro pour un coup de projecteur sur les trois reines d'Hollywood, Greta Garbo, Marlène Dietrich, Marilyn Monroe. C'est aux éditions France Empire. Et pour approfondir évidemment les vies de ces trois stars les plus adulées du XXe siècle, vous procurerez, je pense avec bonheur, le dernier ouvrage de Franck Bertrand que vous venez d'entendre à l'instant à notre micro. On signalera aussi le Elvis Presley de Franck Bertrand, toujours chez France Empire. Il est un habitué de la fête du livre d'Autun, voici Joseph Farnell. Alors, Joseph Farnell, parallèlement à sa carrière de couturier, notamment pour sa propre maison, la maison Farnell, il a mené une activité littéraire et il a écrit une vingtaine d'ouvrages, des romans, des polars, des essais, des documents, dont certains d'ailleurs ont reçu des prix. Et on l'a rencontré le 6 avril dernier à Autun. Et bien sûr, Joseph Farnell nous a parlé d'un de ses romans. Et je lui ai demandé d'évoquer notamment un de ses romans au titre tout à fait mobilisateur, puisqu'il s'agit du Butin du Vatican. C'est un roman paru aux éditions Pascal Gallaudet.
Il faut se souvenir qu'en 1940, quand les Allemands ont occupé la France, une des missions principales de la Wehrmacht, pas principale, mais une des missions, était de voler, de spolier toutes les grandes collections françaises. Hitler voulait faire un musée, le plus grand musée européen ou du monde, il avait tellement d'imagination, voulait faire ça à Linz, aidé en cela par Göring, qui était lui-même un amateur d'art, qui était peut-être un salopard, mais c'était quand même un amateur d'art, mais un amateur d'art extrêmement éclairé, particulièrement éclairé. Bon, lorsque on leur a foutu la pâtée, qu'on est retourné là-bas, on a récupéré beaucoup de tableaux. On a récupéré beaucoup, beaucoup de tableaux, sauf bien sûr ceux qui ont été brûlés ou volés même d'ailleurs. Mais il faut aussi savoir pourquoi le Vatican maintenant. On sait aussi que les tableaux réapparaissent dans des collections ou dans des ventes aux enchères. Bon, à ce moment-là, la police agit, mais ça se passe pas, c'est très souvent occulte. Mais il faut savoir également qu'en 1944, quand l'Allemagne nazie était sur le point de sombrer, les officiers nazis ont traversé les frontières, ont utilisé certaines filières pour aller en Suisse. Et parmi ces filières, il y avait une piste, organisée par le clergé. Alors on se pose la question. On sait très bien qu'on ne paye pas ces billets d'avion, ces faux papiers, avec de l'or parce que c'est trop lourd. Il en faut beaucoup, c'est difficile à porter. Mais une toile de mètre enroulée, on enlève le cadre enroulé, ça ne pèse pas lourd, ça prend pas de place et ça vaut beaucoup d'argent. Où sont-ils passés? Sont-ils dans les coffres en Suisse? C'est possible. On peut imaginer que dans les caves du Vatican, il y en a. Pourquoi pas? Je ne dis pas qu'il y en a. Je n'ai rien contre. contre, comment dirais-je, contre le clergé. Mais enfin, on peut supposer tout ça, et puis ça, c'est le métier d'écrivain, d'essayer d'extrapoler, de voir un peu ce qui se passe. Il se trompe peut-être, et on se demande si vraiment il se trompe, parce que dans mon livre, la mafia fait une incursion dans les caves, trouve quelques toiles et les met en vente à l'extérieur. Et là, tous les services secrets européens, que ce soit, comment dirais-je, la DCRI, que ce soit, comment dirais-je, les Anglais, que ce soit l'ancien KGB, le SFB, tout le monde se met en cours, et le Mossad aussi, qui voudrait bien reprendre ces tableaux pour pouvoir les donner aux descendants, mais qui, eux, ne peuvent pas prouver que ces tableaux étaient chez eux. C'est un vrai millimélo, et les musées nationaux de récupération, au sortir de la guerre, ont fait un travail détestable. On se pose la question de savoir si ce travail détestable n'était pas fait pour remplir le Louvre.
Le butin du Vatican. Roman de Joseph Farnell, dont il vient d'être question. Eh bien, sachez que ce roman est disponible en librairie aux éditions Pascal Galaudet. Et le moment est venu enfin de vous proposer l'entretien avec l'ancien footballeur Lilian Thuram, qui est venu uniquement le samedi 6 avril en après-midi pour rappeler qu'il s'était engagé sur une autre voie, désormais avec la Fondation Éducation contre le racisme. On ne naît pas raciste, on le devient. Cette vérité est la pierre angulaire de la Fondation. Il est donc important de comprendre comment les préjugés se sont mis en place pour pouvoir déconstruire, et cela dès l'école. Nous écouterons Lilian Thuram développer ses positions dans quelques minutes, mais d'abord une dernière pause musicale avant de se retrouver pour la suite et la fin du compte-rendu de la 16e fête du Livre d'Autun.
J'ai l'esprit léger des petits moineaux, mais je l'ai bien caché sous mon manteau. Notre monde, il est pas bien normal. Les grandes personnes sont bien originales. Ils me prennent pour un doutin vrai, en sachant que je me suis libéré du poids de toutes les conventions. Du coup, je suis pas vraiment bien dans le ton. Moi, je regarde courir les chevaux. Ils sont forts, c'est un bel animal. Plus beau que tous ces gens qui passent souvent leur temps à se tromper eux-mêmes. Et moi j'ai pas de problème, je me pose pas de questions. J'ai mes deux antennes qui me donnent la direction. C'est pas toujours la même. Tous comme un martien. C'est vrai que quelque part je viens de loin, quelque part mais je sais plus où. Très bien, bah, l'essentiel c'est ce qui viendra demain. C'est pour ça que moi je préfère les chevals. Ils ne partent jamais en diagonale. Quand on a gagné leur amitié, ils ont vraiment rien à vous reprocher. Moi, je regarde courir les chevaux. Ils sont forts, c'est un bel animal. C'est vrai que je suis décalé, mais qu'est-ce que vous voulez? Car moi, je sais ce que je veux. Que vous m'aimiez un peu, et voir au fond de vos yeux la même fidélité qu'Horace ou Andrieux.
À l'instant, c'était Les Chevals, un titre de GL.
Comme je vous l'ai annoncé, l'ancien footballeur Lilian Thuram était présent à la 16e fête du Livre d'Autun le samedi 6 avril dernier pour y dédicacer, entre autres, Mes étoiles noires. Sans plus tarder, voici Lilian Thuram à notre micro.
Oui, effectivement, je disais que malheureusement, on ne se rend pas compte que notre inconscient collectif à tous commence en plaçant les populations noires dans l'histoire de l'esclavage. Et après, on n'entend pas grand-chose d'autre. Et je pense que nous avons des étoiles de toutes les couleurs, ça permet de changer l'imaginaire. Parce que si vous commencez l'histoire avec l'esclavage, on comprend tout naturellement pourquoi parfois il y a des doutes sur l'intelligence des personnes de couleur noire. Pourquoi il y a des préjugés négatifs selon la couleur encore aujourd'hui. Et donc je pense que pour changer les choses, il faut questionner notre culture. Et notre culture est basée sur une hiérarchie selon la couleur de la peau, comme notre culture est basée sur une hiérarchie selon votre genre. Par exemple, la plus vieille hiérarchie qui existe dans notre culture, c'est la hiérarchie qui place les hommes au-dessus des femmes, et donc qui explique le sexisme qui existe aujourd'hui dans notre société. Donc questionner notre histoire, c'est comprendre le sexisme, c'est comprendre le racisme, c'est comprendre l'homophobie, et essayer de dépasser les problématiques, dépasser nos propres préjugés pour construire une société où il y aurait plus d'égalité.
C'était Lilian Thuram à notre micro, rencontré à la fête du Livre d'Autun, 16e édition. C'était les 6 et 7 avril dernier. Merci de nous avoir suivis et d'avoir été attentifs à cette émission de compte-rendu. Je remercie bien évidemment les organisateurs et les auteurs qui nous ont toujours fait bon accueil. Et puis, je présente mes excuses à celles et ceux à qui je n'ai pas donné la parole. Ce sera bien évidemment pour d'autres fois. Notre rendez-vous est sur le point de se terminer. Je voudrais simplement donner quelques petites informations culturelles et littéraires. Tout d'abord, cela se passe en Saône-et-Loire, très précisément à Givry, qui n'est pas seulement connu pour ses vignobles et ses vins. Le dimanche 5 mai prochain, à Givry, de 10h à 18h, à la Halle Ronde de Givry, se tiendra la première journée du livre, avec effectivement des lectures théâtralisées, des auteurs en dédicace, un grand nombre d'auteurs présents, hein, Marie-Thérèse Mutin, Marie Telot, Marie-Anne Trémaux-Baume, on pourra citer Hugues Douriot, Bernard Châtelet, Emmanuel Maire, Paul Michon, Laurent Vignat et Alain Robert, que nous connaissons puisque nous avons eu le plaisir de le recevoir dans Wagon Livre l'an dernier. C'est donc la journée du livre à Givry, dimanche 5 mai de 10h à 18h, avec la participation de la librairie Rhizome et de la bibliothèque municipale. Le même dimanche, mais cette fois-ci c'est dans la Nièvre, c'est à Decize, se tiendra le 7e salon du livre de Decize, avec bien évidemment, comme chaque année, la remise du prix littéral 2013 de la nouvelle de la ville de Decize. Alors là aussi, jardin littéraire, des lectures à haute voix de nouvelles de la sélection. Également remise du prix du concours d'écriture amateur Écrire sous les Halles, des éditeurs présents, dont les éditions du Chemin de Fer, d'Un Noir Si Bleu. On mentionnera aussi les éditions Rhubarbe, Serroise, mais également Quadrature, Lunatique, ou Luce Vilquin, ou Laure et Hamon. Et puis bien évidemment, des auteurs présents, parmi lesquels Sandra Amani, Lydie Baron, Michel-Marie Baudin-Bougelot, Juliette Chaumazet, Joël Cuvillier, Elodie Da Silva, Joël Egloff, Emmanuel Favier, Isabelle Mutin, Barbara Moreau, Corinne Pourteau, Gwendoline Rameau, Jean-Paul Rousseau, que nous avions reçu dans Wagon Livre, et Alan Ryan. C'est donc à Decize, c'est à partir de 11h le dimanche 5 mai prochain. Et puis, autre information, ce qui concerne la venue de Jeannette Bougrabe, ancienne secrétaire d'État et ex-présidente de la Halde. Elle sera de passage à la librairie Oblique à Auxerre le mardi 28 mai prochain. Une séance de signature est organisée à la librairie de 16h à 17h30 autour donc du dernier ouvrage de Jeannette Bougrabe, paru chez Grasset et qui a pour titre « Ma République se meurt ». Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, toujours à 21h, pour un nouveau départ de votre Wagon Livre. À son bord, le 1er mai,
Marianne Fouchet, pour retracer la vie et l'œuvre de son père, l'écrivain Max-Paul Fouchet, dont on commémore cette année le centenaire de la naissance. Je rappelle que le créateur de Lecture pour tous est mort à l'hôpital d'Avallon en août 1980 et qu'il repose au cimetière de Vézelay. Donc une émission hommage à Max-Paul Fouchet pour le centenaire de sa naissance. Eh bien, ce sera le jour de la fête du travail, mais ce sera le 1er mai à 21h sur Radion. Merci d'avoir été en notre compagnie ce soir. Excellente fin de soirée et douce nuit à l'écoute des programmes musicaux de Radion. Au revoir et à mercredi prochain.